Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 24 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'épopée de libération de Khorram Shah devrait trouver son statut dans le monde. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la loi anti-sanction a levé la confusion sur le nucléaire. Déclaration du leader de la révolution islamique d'Iran. Téhéran et Jakarta sur le point d'augmenter considérablement leurs échanges commerciaux bilatéraux. Et puis l'Iran prend la présidence tournante de l'Union asiatique de compensation lors de son 51e sommet tenu dans la capitale, Téhéran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique iranienne a salué le parlement du pays pour avoir promulgué une loi en 2020 pour contrer les sanctions américaines unilatérales. L'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a déclaré que cet acte stratégique avait sauvé l'Iran de la perplexité sur la question nucléaire. La loi a défini des conditions claires, y compris la levée des sanctions américaines, afin de relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, également connu sous le nom du plan global d'action conjoint. La loi d'Aksionsk a sauvé le pays de l'égarement sur la question nucléaire, a-t-il déclaré. Cette loi a clairement défini ce que nous devons faire et nous voyons même les résultats de sa mise en œuvre dans le monde. En vertu de cette loi, qui a été approuvée en décembre 2020, le gouvernement iranien est tenu de restreindre les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'accélérer le développement du programme nucléaire du pays au-delà des limites fixées par l'accord nucléaire de 2015. Elle a été adoptée dans le but de contrer les sanctions illégales imposées à l'Iran par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Le très haut dirigeant iranien a fait ses remarques lors d'une audience accordée ce mercredi à des parlementaires iraniens à l'occasion du 40e anniversaire de la libération de la ville méridionale de Khorramshahr. L'Ayatollah Khamenei a qualifié la victoire de 1982 d'événement miraculeux qui continue d'impressionner de nombreuses personnes à ce jour. La reprise de la ville aux forces de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein est considérée comme un tournant dans la guerre des années 80 imposée à l'Iran. Le président iranien a déclaré que Téhéran et Jakarta sont sur le point d'augmenter considérablement leurs échanges commerciaux bilatéraux. Le président Raïsi a ajouté que les deux pays ont convenu d'utiliser leur propre monnaie nationale dans le commerce bilatéral. Il a fait ses remarques dans un communiqué conjoint à la suite d'une rencontre avec son homologue indonésien Joko Widodo à Jakarta. les deux dirigeants ont annoncé des plans pour renforcer la coopération économique, notamment dans le domaine de l'énergie. Les deux parties ont signé 11 accords de coopération, notamment sur les douanes et les produits pharmaceutiques, ainsi que sur le pétrole et le gaz, entre autres. Raïssi est en visite officielle en Indonésie, dans le cadre de la politique iranienne de pivotement vers l'Asie et de consolidation de la coopération avec les pays musulmans. À la tête d'une délégation politique et économique de haut rang, le président iranien a été officiellement accueilli par son homologue indonésien, Joko Widodo, peu après son arrivée. Raïssi a tenu des réunions avec les présidents de la Chambre des représentants et de l'Assemblée consultative du peuple d'Indonésie. Il rencontrera également des hommes d'affaires iraniens et indonésiens, s'entretiendra avec des universitaires et des penseurs indonésiens et rencontrera des Iraniens résidant en Indonésie. Pour les commentateurs, le déclin de la puissance occidentale et la montée en puissance de l'Asie ont incité des pays comme l'Indonésie à se rapprocher de l'Iran. L'Iran prend la présidence tournante de l'Union asiatique de compensation, AQ, lors de son 51e sommet tenu dans la capitale Téhéran. Le gouverneur de la Banque centrale du Pakistan, en tant qu'ancien président, a remis la présidence au gouverneur de la Banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin. Jamal Ahmad a déclaré que le syndicat pouvait proposer de nouvelles idées de monnaie alternative qui apporteraient plus d'avantages. Farzin a pour sa part exprimé l'espoir d'une plus grande coopération entre les membres de l'AQ. Le vice-président iranien et les hauts responsables bancaires des États membres ont assisté à la réunion. L'Union asiatique de compensation, qui compte 9 membres, a été créée en 1974 dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis des devises mondiales, en particulier du dollar américain. L'objectif principal de l'Union est de faciliter les paiements entre les pays membres pour les transactions éligibles. L'Iran a fermement condamné les sanctions unilatérales imposées au pays, affirmant qu'elles ont de graves effets négatifs sur la sécurité alimentaire, en particulier pour les femmes et les enfants. L'émissaire iranien à l'ONU a mis en garde contre les graves conséquences des sanctions sur les civils, appelant à ne plus en adopter de nouvelles. Zahra Ershadi, l'ambassadrice adjointe de l'Iran à l'ONU, a fait ses remarques dans un discours prononcé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la sécurité des civils en période de conflit. Zahra Ershadi a déclaré que de telles mesures coercitives causent des problèmes aux services de santé et aux organisations humanitaires. Elle a ajouté qu'elle restreignait également l'accès au matériel médical et bloquait les efforts d'aide humanitaire. La diplomate a noté que la suppression des sanctions unilatérales faciliterait une réponse humanitaire rapide et garantirait l'accès à une aide vitale. Mettre fin aux conflits armés par des solutions politiques est nécessaire pour une protection efficace des civils, a-t-elle insisté. Elle a rappelé aussi les violations systématiques des droits de l'homme par le régime israélien et dans les territoires occupés avec des pratiques constantes d'oppression, d'expansion et d'apartheid. Selon le rapport de l'ONU, a-t-elle dit, l'année dernière a vu le plus grand nombre de civils palestiniens tués en Cisjordanie depuis 2005. Enfin, les forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ont fait état ce mercredi 24 mai du démantèlement d'un groupe terroriste et de la mort de deux terroristes dans le sud-est de l'Iran. Les relations publiques de la base Rots des forces terrestres du CGRI ont annoncé dans un communiqué qu'un groupe terroriste armé qui prévoyait de commettre des actes de terrorisme et de sabotage dans le sud-est du pays a été démantelé. Ce groupe terroriste armé a été poursuivi et neutralisé dans le sud de la province du Sistan et Baloutchistan avant de commettre tout acte de sabotage. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'épopée de la libération de Khorramshahr devrait trouver son statut dans le monde. Déclaration de Téhéran. Ce 24 mai, à l'occasion de l'anniversaire de la libération de la ville iranienne de Khorramshahr, occupée par l'armée irakienne sous l'ancien dictateur Saddam Hussein, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a cité sur son compte Twitter le leader de la République islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui a réaffirmé que l'épopée de résistance et la libération de Khorramshahr étaient un événement unique dans l'histoire du monde. La libération de Khorramshahr est devenue une bannière de fierté et de résistance de la nation iranienne. L'épopée de la libération de la ville de Khorramshahr doit trouver son statut dans le monde. S'est-il félicité et de poursuivre que le souvenir de cette journée historique et inoubliable soit toujours célébré par vous, chers frères et braves hommes du champ de bataille. La libération de Khorramshahr lors des 8 années de la défense sacrée est un tournant dans l'histoire de l'Iran. Un événement héroïque qui a prouvé la puissance défensive et la mesure collective des Iraniens dans la lutte contre les puissances agressives. Le 3 Khordad, soit le 24 mai, marque l'anniversaire de la libération de la ville de Khorramshahr dans le calendrier iranien. La guerre imposée par le régime bassiste d'Irak, avec le soutien des grandes puissances et de leurs alliés dans la région, contre la République islamique, entre 1980-1988, la deuxième plus longue guerre du XXe siècle, après la guerre du Vietnam, est connue sous le nom de défense sacrée dans l'histoire iranienne. Elle a commencé un an après la victoire de la République islamique d'Iran. Durant 8 ans, l'Iran a mené des opérations d'envergure dans le respect de son intégrité territoriale, située dans la province du sud-ouest de l'Iran. Khorramshahr a été capturé par les troupes irakiennes en 1980 et a été sous l'emprise de l'ennemi pendant 575 jours. Les forces iraniennes ont repris la ville portuaire stratégique du sud-ouest lors d'une opération à grande échelle baptisée Beit al-Muqaddas en 1982. Les masses et tous les échelons de la société iranienne se sont unis pour défendre l'ordre islamique et affronter les puissances colonialistes mondiales. La libération de Khorramshahr marque également la défaite de Saddam et de ses maîtres. La victoire a changé le rapport de force dans la guerre imposée en faveur des forces iraniennes. Sa reconquête est due à l'endurance, la persévérance et le sacrifice des combattants iraniens. Autrefois connu sous le nom de « mariés du Moyen-Orient », Khorramshahr est aujourd'hui devenu un symbole de la résistance en Iran. Alors que certains des murs criblés de balles sont encore intacts partout ailleurs dans la ville, il y a un signe qui rappelle la résistance du 24 mai. Selon certaines informations, Khorramshahr devrait accueillir une conférence nationale sur le tourisme de guerre pour honorer la bravoure et le courage des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour protéger le pays. Quelques 25 spots sont à ce jour recensés dans la ville portuaire, ce qui est en fait une destination incontournable en matière de tourisme de guerre. La guerre imposée a commencé lorsque l'Irak, sous le dictateur déchu Saddam, a envahi l'Iran le 22 septembre 1980 et a duré 8 ans. Téhéran a accepté la résolution 598 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a déclaré Saddam comme l'initiateur de la guerre, mettant fin au conflit en août 1988.
Bonjour à tous. Le sujet du jour étant le tour du monde réalisé par la flotte iranienne. Donc c'est le sujet. Nous avons donc fait venir deux invités que nous recevrons d'une manière virtuelle. Maître André Chami, juriste international, et monsieur Luc Michel, notre géopoliticien. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage afin de faire le point sur le sujet.
La cérémonie d'accueil officiel de la 86e flottille de l'armée de la République islamique d'Iran, composée du destroyer Dena et du navire de guerre Makran, tous deux de fabrication locale, s'est tenue ce dimanche 21 mai dans le port de Bandar Abbas au sud de l'Iran. Les deux navires sont entrés samedi 20 mai dans la ville portuaire après avoir parcouru 65 000 km autour du globe et traversé les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, le général Mohammad Bagheri, le commandant général de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Abdul Rahim Moussavi et les familles des commandants et du personnel des deux navires participent à la cérémonie. Lors de cette cérémonie, le chef d'état-major des forces armées iraniennes a félicité le retour réussi de la 86e flottille de la marine en Iran après un voyage historique en haute mer, soulignant que cette réalisation exceptionnelle avait été obtenue malgré les sanctions imposées par l'Occident. Les prouesses maritimes comptent parmi les facteurs les plus importants de la puissance militaire de notre pays. Nous ne manquons de rien pour atteindre un tel idéal et sommes dotés d'industries locales et d'expertise à cette fin. Nos courageux commandants et marins entreprennent une mission navale vaillamment et sans peur, a déclaré Bagheri. La 86e flottille de la marine a rempli une mission historique. Même les grands pays du monde n'ont pas le courage d'entreprendre une tâche aussi formidable. La marine iranienne dépendante du destroyer Dena et du navire de base avancée Makran a participé à la mission au plus fort des sanctions, a-t-il souligné. Par ailleurs, le commandant de la marine de l'armée, le contre-amiral Shahram Irani, a fait savoir que les jeunes membres de la marine iranienne avaient perfectionné leurs connaissances techniques et technologiques grâce à cette mission maritime de 213 jours dans les eaux internationales. Sur ordre du commandant en chef des forces armées, l'ayatollah Ali Khamenei, une mission destinée à envoyer un message de paix et d'amitié au pays du monde entier et à montrer que les Iraniens n'oublieraient jamais les Chines devant les sanctions occidentales. La marine est en marche vers une destinée révolutionnaire, un développement global et durable, et vers le renforcement des liens avec les nations du monde, a-t-il déclaré. L'Iran a accueilli avec fierté sa flottille de navires de guerre Dena et Makran, construits localement lors d'une cérémonie officielle à l'aide de hauts gradés des forces armées et des familles des membres de l'équipage. Cette cérémonie souligne l'importance de la marine pour l'Iran et illustre sa position en tant que puissance militaire régionale.
Donc maintenant, nous allons recevoir nos invités. Nous commençons par Maître André Chami. Bonjour Maître André Chami, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous tous, à toute l'équipe et particulièrement à Monsieur Michel.
Merci Maître. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc notre deuxième invité est Monsieur Luc Michel, notre géopoliticien et expert de la chaîne. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous et à votre équipe et bien sûr à mon collègue Maître Chami.
Alors le sujet du débat d'aujourd'hui est un sujet positif, ça change de certains autres jours, notamment après cette dernière semaine avec la Palestine. Alors Maître André Chami, hier a été un jour de gloire pour les Iraniens, pour l'armée iranienne, notamment la marine iranienne, car ils ont réalisé un tour du monde. Quel est l'impact finalement d'un point de vue international d'un tour du monde et pourquoi les Iraniens, selon vous, se félicitent de la situation ?
Ben, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'exploit technique, parce que quand vous sortez avec une flotte telle que celle déployée par la République islamique d'Iran pour aller en haute mer et franchir plusieurs océans en même temps, évidemment, il s'agit d'un exploit technique, et surtout par rapport à ce qu'on appelle les dangers auxquels cette flotte peut être confrontée. Parce que les ennemis ne manquent pas, et les choses trappent, si j'ose dire, pourraient être à tout moment mises en place par ces fameux ennemis pour justement essayer de faire trébucher la flotte iranienne, et afin que de nouvelles expériences comme celle-ci ne se reproduisent. Mais en même temps, il y a un aspect qui me paraît important, c'est le déploiement de la stratégie militaire iranienne, parce que là, nous sommes passés à une stratégie que j'appellerais offensive, c'est-à-dire ce n'est plus une stratégie uniquement de défense, mais c'est une stratégie qui déploie des moyens à travers le monde afin de nouer des relations stratégiques à tout point de vue, rassurer ses partenaires et montrer que l'Iran n'est pas enfermé dans ses frontières, en tout cas dans ses eaux territoriales, et ce ne sont pas les contraintes que l'on essaye de lui imposer par ce que j'appellerais moi avec mon verbe personnel, par l'axe du mal. Et évidemment, cet axe du mal n'arrive pas à entamer en quelque sorte la volonté des politiques déployées en Iran, mais en même temps du peuple iranien, qui ne veut pas rester à l'intérieur de ses frontières. C'est un peuple ouvert, c'est un peuple qui a des capacités de se déployer à travers le monde. Et là, vous avez la démonstration. Mais dernier mot, et on aura peut-être l'occasion de le dire un peu plus loin, il y a une stratégie globale iranienne qui a deux visées, si j'ose dire. La première, c'est d'abord d'avoir une stratégie de souveraineté, c'est-à-dire de montrer que la souveraineté iranienne s'exerce quels que soient les ennemis qui l'entourent ou ceux qui lui cherchent des problèmes. Mais il y a également cette stratégie qui est au service d'une politique et d'une vision du monde. Cette stratégie qui est déployée par la République islamique d'Iran à travers sa force militaire, mais pas que, évidemment, c'est au service d'une stratégie politique. C'est-à-dire là où des intérêts politiques iraniens se trouvent, eh ben, la force iranienne se déploie et apporte son soutien et son concours à ses partenaires, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Ce sont les points qui je pourrais développer pour l'instant, mais il y a encore d'autres choses qu'on pourrait évoquer sur la question militaire et la capacité militaire et son utilisation à bon escient par la politique iranienne et par la stratégie iranienne.
Merci, Maître André Chami. Alors, comme vous l'avez vous-même indiqué, Maître André Chami, donc on parle notamment de la souveraineté, de la protection souveraine au niveau terrestre, au niveau aérien et au niveau donc maritime. C'est l'enjeu, en fait, donc de la situation. Déjà, avec les radars, les Iraniens avaient réussi à protéger d'un point de vue terrestre et aérien leur souveraineté. Il ne restait plus que maritime. Et en faisant donc ce tour du monde, ils ont prouvé qu'ils étaient capables également de protéger leur territoire maritime. Monsieur Luc Michel, vous savez, vous-même étant expert géopoliticien, que dans la région du Moyen-Orient, au Liban, on a vu souvent la souveraineté des pays être bafouée. Rien que pour rappel, les multiples avions qui survolent le Liban, qui survolent la Libye, moins depuis l'implication des Russes sur le territoire. Mais voilà, est-ce que c'est aussi l'enjeu en fait de l'Iran en disant « vous ne serez plus capable d'attaquer nos territoires ?»
Mais l'Iran est en train d'émerger comme une grande puissance militaire capable de se projeter sur toutes les mers du globe. On se souvient que les adversaires de l'Iran ce sont des thalassocraties des puissances maritimes. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, elles se basent sur une domination maritime. Et c'est cette domination qui est contestée. Il y a eu des manœuvres dans l'océan Atlantique, en marge de l'Amérique avec le Nicaragua. Il y a eu des manœuvres avec la Chine. Il y a eu des manœuvres avec la Russie. L'Iran aujourd'hui en compagnie de la Russie, qui est son principal partenaire militaire, elle est déployée dans le golfe de Guinée, dans l'océan Indien, et elle contrôle les voies maritimes d'approvisionnement de l'Occident en cas de troisième guerre mondiale. C'est cela qui est décisif. Comme l'a dit Maître Chami, on est passé une stratégie offensive.
Merci, Monsieur le Cuchel. Maître André Chami, donc, comme je l'ai indiqué par rapport aux territoires occupés, est-ce que ça va être une aide pour la résistance? Parce que bon, l'Iran peut maintenant protéger d'un point de vue terrestre, maritime et aérien son territoire. On sait, comme je l'ai indiqué, qu'il y a d'autres pays qui sont souvent, dont le territoire est souvent bafoué. Rien que pour rappeler ce qui s'est passé avec le Yémen, ils n'ont pas su protéger leurs ports. Le Liban, également au niveau aérien, est souvent attaqué, souvent doit subir les survols des avions étrangers, pour ne citer que l'antisioniste Israël. Est-ce que vous pensez que donc, ça va être un bien pour la région, notamment pour les pays qui n'ont pas la possibilité de protéger leur souveraineté maritime ou même aérienne?
Ah, il y a une volonté indiscutable de la part de la Russie et de l'Iran. C'est ce que j'appelais sa stratégie politique mondiale, mais plus particulièrement régionale. Son déploiement est au service de cette stratégie. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai des alliances, par exemple, le déploiement terrestre en Syrie, le déploiement terrestre et avec la protection qui est assurée, par exemple, en Irak, tous ces déploiements-là ont été accompagnés d'une stratégie militaire, mais qui est au service d'une stratégie politique, c'est-à-dire avoir des alliances, avoir une projection territoriale afin de ce que j'appellerais, moi, assurer une zone qui va au-delà du territoire, parce que plus vous vous éloignez de votre territoire, plus votre projection est importante, plus votre rôle est important. Et évidemment, plus votre protection est importante, parce qu'avant de venir s'approcher de votre territoire, il faut d'abord qu'on essaie de si j'ose dire, de vous toucher dans les territoires que vous avez pu conquis d'une manière ou d'une autre, notamment par les alliances stratégiques et par le jeu de stratégie régionale et mondiale. Et nous y sommes. Là, évidemment, la question que vous posez est très délicate, mais en même temps, nous laisse présager des probablement des exploits militaires, en tout état de cause, des menaces militaires pour les ennemis et de l'Iran, mais et de toute la région. Vous avez cité l'antisionisme, il n'y a pas que. Évidemment, le jour où les alliés de l'Iran aurait à affronter, par exemple, l'entité sioniste, puisque c'est ça le danger qui aujourd'hui guette cette entité, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs fronts ouverts en même temps, c'est-à-dire le front palestinien, le front libanais et le front syrien, voire plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à imaginer même des attaques éloignées depuis l'Irak. Même l'Algérie, l'autre fois l'armée algérienne, a surpris tout le monde en disant qu'ils sont prêts à intervenir pour protéger Al-Aqsa. Toutes ces questions-là aujourd'hui se posent, et à ce moment-là, la question qui se pose par la même occasion, en tout cas dans le cadre de déploiement de force, est-ce que l'Iran sera de la partie et comment? Et évidemment, un déploiement maritime permettrait indiscutablement de rapprocher davantage. Ce n'est pas que les missiles iraniens ne peuvent pas toucher le territoire occupé par l'entité sioniste, mais ça rapprocherait davantage, ça créerait également une zone supplémentaire de confrontation qui pourrait, selon les, si j'ose dire, ce qui se dit ou ce qui s'annonce, accélérerait la chute définitivement de l'entité sioniste. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai eu l'occasion de l'exprimer, dans la perspective de se poser la question, non pas si la guerre va avoir lieu, c'est juste à quel moment cette guerre va avoir lieu et qui vont y participer et évidemment quelle fin ça aurait cette guerre-là. Et la fin qui est annoncée, c'est vraisemblablement pour l'ensemble de la région, c'est une modification géographique globale, pour ne pas dire intégrale, et qui aboutirait à quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qui existe actuellement.
Merci, Maître André Chalmé. Monsieur Luc Michel, c'est un vieux rêve de l'Iran d'avoir donc une force militaire maritime qui date même avant la révolution. Finalement, c'est la République islamique d'Iran qui a réalisé ce vieux rêve iranien. Il y a aussi un enjeu qui est également beaucoup plus commercial, beaucoup plus terre-à-terre concernant une forte marine iranienne, parce que l'une des raisons pour laquelle l'Iran avait du mal avec les sanctions, c'est l'échange de fournitures. Avec donc un tel déploiement, est-il possible donc aussi qu'au niveau commercial, ça améliore les chances des Iraniens de commercer avec les autres continents, Monsieur Luc Michel?
Écoutez, le principal enjeu de la domination maritime, ce sont la protection des voies commerciales. Aujourd'hui, nous passons d'une domination du bloc américain occidental, qui est une alliance de puissances maritimes, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Australie. Nous passons à un monde multipolaire dans lequel les puissances continentales eurasiatiques vont contester les occidentaux sur les mers du globe. Les Russes seront en 2050 présents sur les 6 océans du globe, comme du temps de l'amiral soviétique Gorchov, et aujourd'hui sont principalement liés, c'est l'Iran, auquel le projet géopolitique maritime est évidemment un parallèle.
Merci, Monsieur Michel. Maître André Chalmé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, il est vrai qu'il y a des droits, du droit international, mais à cause des sanctions américaines, ce droit n'était pas respecté pour l'Iran. Avec une telle force maritime, vous pensez que donc l'Iran aura plus de possibilités de commercer, sanctions ou pas sanctions, avec des pays et des continents plus loin? Et donc permettre aux pays d'être intéressés par le marché iranien, par les ports comme Bandar Abbas qui existent déjà ou en Caspienne?
Là, il y a indiscutablement une volonté iranienne de sortir, entre guillemets, de ses frontières. J'ai eu l'occasion de l'exprimer, mais là, évidemment, comme le dit M. Michel, quand vous vous dotez d'une puissance maritime importante qui vous permet de vous projeter, évidemment, ça crée un sentiment de sécurité pour commercer et pour travailler. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle les alliances stratégiques qui sont importantes, où l'Iran se projette vers l'Asie, vers l'Amérique latine, vers d'autres pays, vers l'Afrique. Et évidemment, la présence maritime lui permettrait non seulement de rassurer ses partenaires, mais en même temps de créer sa propre assurance, entre guillemets, pour protéger ses propres navires et ses propres déplacements. Parce que quand vous envoyez des pétroliers qui vont vers le Venezuela, c'est important de rassurer les Vénézuéliens que ce navire ne craint rien parce qu'il y a une force maritime qui l'accompagne. Je prends ça comme exemple, mais il y en a tant d'autres.
Merci, Maître André Chalmé. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous pensez maintenant avec le futur pour l'Iran, l'impact, parce que ça a été largement diffusé sur les chaînes iraniennes, des vidéos également, les marins ont été accueillis comme des héros. Est-ce que derrière ça, il y a un message pour les autres pays, mais également pour les Iraniens qui ont vu il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois de ça environ, une attaque à l'intérieur de leur territoire? Est-ce que ça permet de conforter également ceux qui veulent croire en l'avenir iranien et en l'avenir de la République islamique?
À l'extérieur, les ennemis d'Iran sont conscients du danger. Les États-Unis, par exemple, sont paniqués par le déploiement de l'Iran à l'entrée de l'Atlantique Nord et au large des côtes de l'Amérique latine. Mais il y a évidemment un renforcement de protection pour la population iranienne. Le temps où l'on saisissait les pétroliers iraniens un peu partout dans le monde, il est terminé.
Merci. On parle notamment des piratages qui ont également lieu aux alentours des mers d'Oman, pas très loin des côtes iraniennes. Maintenant, c'est presque fini, puisque souvent on entend parler des attaques et des retours de l'armée iranienne, de la marine iranienne sur le sujet. Maître André Chalmé, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives à voir également de cette volonté d'accueillir en héros donc ces marins qui ont fait le tour du monde? Plusieurs navires sont en question. Ce n'était pas un seul navire qui a fait ce tour du monde-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message intérieur et un message extérieur à cette rentrée des héros?
Le message extérieur est beaucoup plus important parce que là, une présence est réelle, est garantie et a démontré une pérennité. C'est-à-dire, ça ne s'est pas passé sur 2 jours, ça ne s'est pas passé dans l'environnement direct, c'est-à-dire dans les mers limitrophes. C'est allé plus loin. Tous les océans pratiquement ont été franchi par la marine iranienne. C'est la démonstration et de la puissance et du courage, si j'ose dire, mais également de la persévérance dans la démarche. Et ça, c'est évidemment rassurant pour l'intérieur comme pour l'extérieur, et notamment les partenaires commerciaux, mais stratégiques, je reviens, parce que cette armée iranienne est au service d'une stratégie politique et d'une stratégie militaire, et c'est un exercice de souveraineté que personne ne pourra disputer.
Merci, Maître André Chahine. Monsieur Luc Michel, on sait qu'à chaque fois que l'Iran a présenté ses avancées technologiques, que ce soit d'un point de vue nucléaire, que ce soit d'un point de vue civil, je rajoute toujours civil, que ce soit d'un point de vue de l'armée, de la marine, des sanctions américaines s'ensuivent. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce genre de sanctions de nouveau, vu que, par exemple, pour le niveau nucléaire, ce sont notamment des entreprises qui ont été visées, des personnes également ont été visées, afin de ne pas permettre l'achat de pièces à l'extérieur. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de réaction de la part notamment des États-Unis ?
Les Occidentaux vivent encore dans un monde qui est révolu. Le G7, par exemple, a menacé de sanctions la Chine, même la puissance chinoise. Donc il faut s'y attendre, mais ces gens seront de plus en plus impuissants. L'alliance de Pékin, de Moscou et de Téhéran rend ces sanctions nulles et non avenues, sans parler des alliés en Amérique latine, au Proche-Orient, etc.
Merci, Monsieur Michel. Maître André Chahine, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse négative des États-Unis, notamment par de nouvelles sanctions ? Ils en inventent tous les jours. On pense que la liste est déjà suffisante, mais à chaque fois que l'Iran a montré une avancée, les sanctions, elles ont suivi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de réaction ?
J'ai envie de dire, et alors ? Puisque les sanctions sont là, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit aussi sanctionné, pour ne pas dire plus sanctionné que l'Iran. Et ça a donné quoi ? Ça a donné, au contraire, ça a donné une leçon pour les autres pays, c'est-à-dire les sanctions, ce n'est pas une contrainte, ça peut être tout simplement un challenge pour que les pays arrivent à se dépasser, arrivent à trouver des moyens pour sortir de cet encerclement. L'exemple russe, je dirais, est la parfaite démonstration de ce qui se passe. L'exemple chinois va le devenir également, parce que les menaces de sanctionner la Chine y répond en disant « Moi, vous sanctionnez, je peux aussi utiliser des sanctions. » Et à ce moment-là, on va voir qui va plier les genoux le premier. Et aujourd'hui, si dans les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce qu'on a appelé sur le nucléaire iranien, on a essayé d'introduire les discussions sur les missiles iraniens, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a compris que le déploiement de la puissance militaire, y compris sur le terrain des missiles, mais pas que, évidemment, va apporter à l'Iran des moyens supplémentaires afin de faire face aux défis qui lui sont posés. Et là, vous avez les sanctions d'un côté, mais vous avez les réponses. Et ces réponses ont démontré l'inefficacité réelle des sanctions et la capacité de l'Iran, au contraire, de trouver toujours des moyens de secours et des moyens pour contourner tout cela et faire face aux défis qui lui sont lancés sur le plan mondial et sur le plan intérieur, y compris économique, parce que la population en souffrait et en ressent aujourd'hui que c'est de moins en moins ressenti, parce que justement les solutions de substitution ont été trouvées par le pouvoir iranien et par le génie, si j'ose dire, iranien.
Merci, Maître André Chahine. Ce sont sur ces mots que nous finissons donc notre débat. Je remercie donc nos deux invités. Je rappelle M. Luc Michel et Maître André Chahine, nos experts du jour, concernant la marine et l'avancée de la marine iranienne. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour un autre sujet du débat ici dans les studios de Presse TV. Au revoir.
Chers auditeurs, et bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé à Jakarta, la capitale indonésienne, mardi 23 mai, pris une visite officielle de 2 jours visant à renforcer les relations de la République islamique avec les pays asiatiques dans les domaines politiques et économiques. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a été officiellement accueilli par son homologue indonésien, Joko Widodo, peu après son arrivée, mardi 23 mai, dans la capitale indonésienne. Raisi et Widodo ont eu des entretiens au palais Merdeka, tandis que des délégations de haut niveau des deux pays ont mené des négociations. 11 documents et accords ont été signés. La visite d'État du président iranien à Jakarta marque un tournant dans les relations bilatérales qui ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. En vertu des accords, Téhéran et Jakarta amélioreraient la coopération dans divers domaines, y compris le commerce préférentiel, PTA, l'annulation des visas, les échanges culturels, la supervision des produits pharmaceutiques, la science et la technologie, ainsi que le pétrole et le gaz. Les accords ont été signés par les ministres iraniens des Affaires étrangères, des technologies de l'information et des communications, du pétrole, le vice-président des Affaires scientifiques et technologiques et le vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce avec leurs homologues indonésiens. Les négociations entre les deux pays englobent un large éventail de sujets bilatéraux, régionaux et internationaux et visent à approfondir la coopération dans divers domaines, notamment les domaines politiques, économiques, commerciaux, énergétiques, scientifiques et technologiques, culturels, parlementaires et de sécurité. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a remis en question dans des tweets séparés le double langage de l'Occident envers la question des droits de l'homme en Iran. L'Iran a condamné la ministre allemande des Affaires étrangères pour ses commentaires sur les droits de l'homme dans la République islamique, réitérant la complicité de Berlin dans les crimes de guerre du régime de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein pendant la guerre imposée des années 1980. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses commentaires dans un tweet mardi 23 mai, un jour après que la ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré que l'Union européenne n'accepte pas les violations présumées des droits de l'homme par l'Iran. Il est très peu probable que la ministre allemande des Affaires étrangères ne soit pas consciente de la mentalité du peuple iranien envers les gaz toxiques et substances chimiques et de leur lien avec le gouvernement allemand, a-t-il écrit. Comment se donne-t-elle le droit de parler des droits humains du peuple iranien, alors que son gouvernement est responsable d'avoir équipé le régime de Saddam d'armes chimiques ainsi que d'avoir tué et empoisonné des milliers de citoyens iraniens? Il a également publié des photos montrant les conséquences du bombardement chimique irakien de la ville iranienne de Sardash le 28 juin 1987. Plus de 100 personnes ont été tuées dans l'attaque et des milliers d'autres ont été exposées à des agents chimiques. Après plus de 3 décennies, de nombreux survivants du crime doivent encore vivre avec les effets respiratoires et même psychologiques à long terme de l'inhalation de gaz moutarde. Dans un autre tweet, le porte-parole de l'appareil diplomatique a dénoncé le silence de l'Occident envers le dernier crime fomenté par un groupe de terroristes à Saravan, la ville frontalière avec le Pakistan. Kanani a critiqué le mutisme observé par de prétendus défenseurs des droits de l'homme et des ambassadeurs européens sur une attaque terroriste dans le sud-est de l'Iran qui a coûté la vie à 5 gardes-frontières du pays. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe des soi-disant défenseurs des droits de l'homme et ceux qui prétendent lutter contre le terrorisme, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dans son tweet. Il a également critiqué les ambassadeurs européens à Téhéran pour s'être abstenus d'envoyer un message uni concernant le martyre des gardes frontières iraniens par des terroristes. Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, affirme que l'Iran constitue un pilier solide, un support pour la résistance palestinienne et l'axe de la résistance dans la lutte principale contre l'ennemi sioniste et l'hégémonie américaine. Les propos du lundi soir d'Ismaïl Haniyeh font écho aux déclarations du général Rani, commandant de la force Rots du corps des gardiens de la révolution islamique. Les combattants de Rots, de la Cisjordanie et de toute la terre de la Palestine ont prouvé que l'aube de la victoire est proche, a dit le général Ismaïl Rani dans un message à l'adresse des groupes de résistance palestiniens le 14 mai dernier. Ce message a été publié après la récente bataille de 5 jours menée par le mouvement de résistance palestinien djihad islamique contre l'ennemi sioniste et à laquelle la résistance palestinienne a donné le nom de la « vengeance des épris de la liberté ». Et de mouvements de résistance palestiniens, le Hamas et le djihad islamique ont réagi aux crimes commis le lundi matin par les forces israéliennes en publiant séparément un communiqué promettant une riposte cinglante. Le mouvement Hamas a présenté dans son communiqué ses condoléances à l'occasion de la mort en martyr des 3 jeunes Palestiniens, suite à lors d'affrontements armés avec les forces du régime sioniste dans le camp de réfugiés de Balata au sud de Naplouse. Les crimes barbares des forces sionistes dans le camp de Balata, où elles ont tué en martyr 3 jeunes Palestiniens et détruit plusieurs maisons palestiniennes, n'auront aucun impact sur la volonté du peuple révolutionnaire de la Palestine de riposter aux crimes des occupants et de protéger la mosquée Al-Aqsa et d'autres endroits où valeurs sacrées, objets de menaces de la politique de judaïsation du régime sioniste, précise le communiqué du Hamas. À son tour, le djihad islamique a présenté ses condoléances à l'occasion de la mort en martyr de ces jeunes Palestiniens. Les crimes de l'ennemi renforceront la volonté de notre peuple de poursuivre la voie de la résistance. La résistance va certes venger le sang de ces martyrs. Les forces israéliennes ont tué en martyr lundi 3 jeunes Palestiniens lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Balata près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'assaut a été lancé très tôt lundi 22 mai. Contre le camp de réfugiés de Balata au sud-est de la ville de Naplouse. Différentes régions de la Cisjordanie ont été ces derniers mois la scène d'opérations anti-israéliennes, laissant les responsables sionistes dans une confusion totale pour assurer la sécurité des colons. Un haut responsable du Hezbollah, mouvement de résistance libanais, a déclaré que le groupe ferait pleuvoir ses missiles de précision sur les territoires occupés si le régime sioniste commettait un acte insensé contre le Liban. Si l'ennemi sioniste commet un acte insensé et transgresse les règles du jeu, nous bombarderons l'entité avec nos missiles de précision, a déclaré dimanche 21 mai Saïd Hashem Safieddine, chef du conseil exécutif du Hezbollah, qui supervisait des exercices militaires à grande échelle organisés par des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban, avant le 23e anniversaire de la libération du pays de l'occupation israélienne. Les exercices qui ont eu lieu dans un camp de résistance près du village de Mlita, dans le sud du Liban, comprenaient plusieurs exercices simulant des attaques du Hezbollah contre des avant-postes israéliens dans toute future bataille. Des journalistes locaux, régionaux et internationaux ont été invités à couvrir l'exercice. Au cours de l'exercice, le Hezbollah a fait une démonstration de force tandis que ses combattants ont défilé sur des véhicules tout-terrain et des motos. L'unité d'artillerie de l'armée syrienne a attaqué les positions des éléments terroristes autour du village de Majdaliya, situé dans le sud de la province d'Idlib en Syrie, a rapporté lundi 22 mai la chaîne de télévision Al-Mayadin. Violant le cessez-le-feu, les éléments terroristes ont pris pour cible dimanche 21 mai à l'aube les zones de désescalade d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré le centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie. Le contre-amiral Oleg Grinov, directeur adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, a fait part de 2 bombardements dans les provinces d'Alep et de Latakia. Auparavant, le Centre russe a également annoncé une attaque des éléments terroristes du Parti islamique du Turkestan, PIT, contre les zones de désescalade. Le centre a enregistré le 23 avril 3 violations du cessez-le-feu par le parti islamique du Turkestan, dont 1 a été dans la province d'Idlib et 2 dans la province de Latakia. Il est à noter qu'en Syrie, certaines zones sont encore contrôlées par les groupes terroristes, notamment le front al-Nusra. À la fin de l'été 2018, les présidents de la Russie et de la Turquie étaient parvenus à un accord à Sochi en Russie, selon lequel Ankara s'était engagé à évacuer les terroristes des zones de désescalade ou à les désarmer. Cet accord a échoué et les terroristes attaquent de temps en temps les forces militaires syriennes ou les bases russes situées autour de ces régions. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.